deuxième livre des rois, au chapitre 5e. Deuxième livre des rois, au chapitre 5, et à partir du verset 1er. Deuxième livre des rois, chapitre 5, le verset 1er. Nous lisons ces paroles. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il l'envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et tu sauras qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et ils sont retournés, partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire que ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Voilà, donc c'est un récit qui nous transporte au 9e siècle, avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Les livres des rois nous rapportent une série d'événements qui se sont déroulés dans le royaume d'Israël, ou plutôt dans les royaumes de Juda et d'Israël, puisqu'à partir, pour les lecteurs assidus de la Bible, à partir de la vie du fils du roi Salomon, le royaume d'Israël a existé en 2 entités, il a été divisé en 2, il y avait au sud ce qu'on appelait le royaume de Juda, en réalité il comprenait les tribus de Juda et de Benjamin, et puis 10 autres tribus qui se situaient plus au nord, qui formaient un autre royaume, et c'est dans ce deuxième royaume que se déroule ce récit. Il nous conduit à l'époque du ministère de ce prophète éminent, le prophète Élisée. Les prophètes étaient des hommes que Dieu avait suscités pour parler au peuple de sa part. Le prophète était celui qui parlait au peuple de la part de Dieu. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs prophètes. Si vous connaissez un petit peu les Écritures, vous savez qu'il y a bien des livres qui ont été écrits et qui regroupent les paroles, ou en tout cas une partie des paroles, parfois une synthèse des paroles des prophètes. Il y a ceux qu'on appelle les grands prophètes, on les appelle grands parce que leurs livres sont longs. Il y a le livre d'Ésaïe, par exemple, qui fait plus de 60 chapitres, le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, et puis ceux qu'on appelle les petits prophètes, Osée, Joël, Amos, etc. Ils ne sont pas plus petits par leur importance, mais ils sont plus petits par la taille des livres qu'ils ont écrits. Et voilà pourquoi on les appelle les petits prophètes. Et puis il y a aussi des prophètes qui n'ont rien écrit. Leurs paroles n'ont été conservées que très épisodiquement dans d'autres livres qui ne portent pas leur nom. C'est le cas du prophète Élie et de son successeur, le prophète Élisée, qui apparaît ici. C'est un homme que Dieu avait envoyé à Israël pour bénir le peuple. Il a accompli de glorieux miracles, et voilà, c'est l'un de ces miracles qui nous est décrit ici. C'est la guérison de de Naaman le Syrien, de Naaman le lépreux. Oui, cet homme, Naaman, était Syrien, il était né, il appartenait au peuple de Syrie, c'est un pays dont on parle beaucoup aujourd'hui, pour d'autres raisons. Naaman nous est décrit, là, en quelques versets, on se fait une idée de ce personnage. Il était ministre de la guerre, c'était un général militaire, il était chef de l'armée du roi de Syrie. Ce n'était pas un ministre qui demeurait dans des bureaux, mais comme les généraux de ce temps-là, ils accompagnaient leurs armées sur le champ de bataille. C'était un homme vaillant, un homme de guerre. Et même, on y reviendra, c'est important, le peuple auquel il appartenait était un peuple ennemi du peuple d'Israël. Très souvent, on voit dans le livre des rois que des combats ont été livrés par le royaume de Syrie contre le peuple d'Israël. Cet homme était donc un ennemi. Ça n'empêche pas Dieu de le bénir. Vous voyez, ça nous fait réfléchir. Vous savez, il y a un verset du Nouveau Testament qui nous dit ceci, avant de connaître le Christ, eh bien nous sommes nous-mêmes ennemis de Dieu. Hein? Voilà, ennemis par nos mauvaises pensées, par nos mauvaises œuvres. Mais Dieu veut nous rapprocher de lui par le don et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. De telle sorte que si quelqu'un ce soir se sentait ennemi de Dieu dans ses pensées, si vous êtes arrivé de lever le poing contre lui, que ce soir vous vous disiez, mais Dieu peut-il me bénir, Dieu peut-il m'aimer, je suis posé comme un rebelle, bien oui, nous l'avons chanté, pour nous, rebelle, il s'est offert. De la même manière que cet homme ennemi a trouvé grâce à ses yeux, bien indépendamment de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que notre vie a pu être, je vous assure que c'est vrai. Dieu désire nous bénir, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de l'amour qu'il nous porte. Puis, en quelques versets, la Bible trace donc un portrait de cet homme, Naaman, ce chef militaire, nous a dit ceci, il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Grande considération, c'est-à-dire qu'il bénéficiait de l'appui et de la protection du roi. Hein, d'ailleurs, on le verra un peu plus tard. Le roi va l'aider à mettre en œuvre ses projets. Et c'est toujours bon d'être protégé par le roi, d'avoir la protection des puissants. C'était un homme éminent, élevé dans la société de son temps. Et pourtant, la deuxième chose que sa position nous apprend, c'est qu'on peut jouir d'une position élevée, jouir de la protection des plus grands. On y reviendra. C'est un homme riche. Abondamment riche de, par sa position de ministre, de par les richesses que le roi était prêt à conférer libéralement sur lui, bien devant le problème de la maladie. Toutes ces choses ne lui ont été d'aucun secours. Cet homme était lépreux, on va en parler. Il était atteint d'une maladie incurable et toute sa richesse, toute sa stature, toute sa position sociale n'a pu lui être d'aucun secours. Et ça, c'est vrai de chacun de nous, voyez-vous. Quel que soit notre rang social, quelle que soit la protection dont nous pourrions bénéficier ce soir de la part des grands de ce monde, ça ne nous met pas à l'abri de certains coups de la vie, ni de la maladie, ni de, je ne sais pas moi, un coup dur, un revers du sort. Même les plus grands n'y échappent pas. Et même la mort, hein, parce que cette maladie, la lèpre, à terme, elle conduisait vers la mort. Vous savez, même les grands de ce monde doivent fermer les yeux à la terre. Et c'est important hein, que ça nous fasse réfléchir, ça. La Bible est un livre qui nous parle de l'éternité, qui nous parle des choses de la vie, qui nous parle aussi de la mort. C'est vrai que les gens passent tellement de temps à préparer les choses dans la vie. Quand un enfant grandit, les parents l'aident. Hein, ils lui disent, il faut que tu travailles à l'école, parce que, faut que tu prépares ton avenir. Puis quand ils sont un petit peu plus grands, c'est toujours les parents qui les aident. Il faut que tu prépares l'université, il faut que tu prépares ton métier. Et puis, quand on a un métier, hein, on prépare sa retraite. Hein, aujourd'hui, il faut y penser d'ailleurs, parce qu'on n'est pas certain qu'il y en ait encore beaucoup, hein, qui en restent pour la retraite. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez que les gens s'y préparent, qu'ils mettent de côté, qu'ils prévoient leur avenir. Mais avez-vous remarqué que quand vous parlez aux gens de préparer leur éternité, alors là, leur réaction est tout à fait différente. Pourtant, ce n'est pas différent. Hein. On y passera par la mort. Il faut préparer son éternité. Des gens vous disent « Ah, mais la mort, j'y pense pas parce que ça me trouble quand j'y pense. Il ne faut pas être comme l'autruche hein, qui cache sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger. Si le danger est là, il vaut mieux un homme prévenu en vaut deux, ne pensez pas. » Et puis d'autres personnes vous disent, mais moi, la mort, j'y pense pas, parce que ça, ce sont des pensées qui sont réservées pour les gens religieux. Ça, c'est des choses de la religion, et moi, eh bien, je ne leur laisse pas de place dans ma vie. Mais vous savez, la mort, elle ne frappera pas que les gens religieux. La Bible dit que c'est le rendez-vous de tous les hommes, c'est le rendez-vous de toute la terre. Et le cas de Naaman, cet homme lépreux, il nous amène à prendre à cœur les choses de la vie et aussi la mort. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. De la même manière que Naaman va être béni par Dieu, bien Dieu veut nous bénir aussi. Et vous savez, quand on s'approche de Dieu, on peut recevoir de lui une assurance qui pénètre même au-delà de l'éternité. Ce qu'il a prouvé à tous, nous dit l'Écriture, en ressuscitant le Seigneur Jésus d'entre les morts. La résurrection du Seigneur d'entre les morts est le gage que le salut, que la bénédiction que Dieu nous donne, elle s'étend au-delà même du voile de la mort, elle pénètre dans l'éternité. Donc on revient à Naaman. Donc c'est un homme riche, c'est un homme puissant, et puis c'est aussi un homme courageux. En fait, il a des qualités, Naaman. Il a des qualités, il est vaillant au combat, il est connu pour cela, et même, c'est un homme généreux. C'est un homme qui est doté d'une certaine bonté naturelle. Je ne sais pas si ça vous frappe, quand vous lisez les récits des batailles qui se livraient dans l'Antiquité, et à cette période particulièrement, on s'aperçoit de la grande cruauté des armées, qui n'hésitaient pas à massacrer femmes et enfants. Les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui, hein, malgré l'évolution de nos sociétés, la Convention de Genève, etc. La réalité, c'est que si vous regardez ce qui se passe ici ou là sur la Terre, parfois pas si loin que ça, le cœur de l'homme est resté le même. Mais cet homme, qui est un chef militaire, il nous a dit que lorsqu'ils sont sortis, les armées de Syrie ont fait prisonnière une petite fille, et Naaman, il l'a recueillie. Il l'a recueillie, ça l'a touchée. Il a manifesté envers cette petite fille de la bonté. Alors elle servait sa femme et lui, elle était dans une position de servante. On a l'impression qu'il la traitait comme sa fille, puisque cette petite fille, avec son cœur d'enfant, quand elle va se rendre compte que Naaman souffre de maladie, elle va lui donner une solution. Hein, vous savez, les enfants, on leur fait pas dire ce qu'ils ne veulent pas. Cette petite fille avait certainement été touchée par la bonté que Naaman avait manifesté envers elle, même après sa captivité. Et c'est important de savoir que Dieu voit ce qui est bon en nous. Mais oui. On entend parfois, il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Si, bien sûr, il y a des grands et des petits péchés. La Bible établit une gradation de certaines choses. Il y a une gradation dans le mal. Il y a certaines actions qui sont mauvaises. Il y en a d'autres qui sont abominables. Et de la même manière, Dieu est capable de voir la bonté dans le cœur de l'homme, même de celui qui ne le connaît pas, vous savez. Hein, il y a des gens qui ne font aucun cas de Dieu et qui sont quand même capables de manifester des qualités. Et non seulement Dieu le voit, mais je dirais que Dieu l'honore. Parce que d'une certaine manière, c'est parce que c'est... Comment dire ça ? Hein, c'est parce que Naaman a manifesté de la bonté envers cette petite fille, c'est son acte de bonté qui a permis la manifestation de la bonté de Dieu à son égard. Je ne suis pas en train de prêcher le salut par les œuvres. Hein. Le Seigneur a dit, quiconque donnera à boire à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, on le dit en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Et c'est vrai que Dieu voit ce qui est bon en nous. Il voit ce qui est bon en nous et là, il a honoré. Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Faisons du bien. Appliquons-nous à faire du bien. Je vous assure que si nous le faisons pour être agréable à Dieu, quand bien même nous aurions encore besoin de salut ce soir, ben c'est une bonne chose de faire le bien. C'est une bonne chose de faire le bien. Ça n'empêche pas qu'il y a un besoin plus impérieux, plus urgent, plus capital que tous les autres, c'est le besoin de notre salut. Alors, c'est illustré ça aussi par la condition de Naaman. Il nous a été décrit en quelques versets comme un homme riche, comme un homme jouissant de protection, d'une haute stature sociale, un homme courageux, vaillant, un homme doté d'une certaine bonté naturelle. Mais il nous a dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, dans la Bible, la lèpre, c'est très souvent une image du péché. parce que la lèpre, c'est un mal incurable contre lequel il n'y a pas de remède. C'est un mal qui isolait, qui rendait impur celui qui en était atteint, surtout en Israël, s'attachait à la lèpre, une souillure cérémonielle. C'est un mal qui conduisait lentement vers la mort. Alors attention, quand il est question de la lèpre dans les livres de l'Ancien Testament, je ne crois pas que ce soit la même lèpre que celle dont on a parfois entendu parler dans certains pays, aux Indes beaucoup, en Afrique, on a vu ces terribles images d'enfants atteints de la lèpre dont les membres tombent. Ce n'est pas cette lèpre-là, hein, c'était surtout la peau qu'elle s'attaquait, mais c'était un mal qui vous isolait complètement, ça gâchait sa vie à Naaman. Malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il était, il y avait un problème là qui le rongeait et qui était attaché à lui. Ben, ça, c'est vrai du péché. Voyez. C'est la condition de tous les hommes. Malgré leur richesse, malgré leur statut social, malgré tout ce qu'ils possèdent, malgré leur bonté naturelle, malgré notre bonté naturelle, ce qu'il peut y avoir de bon, il y a ce mal en nous. C'est le péché. Ça, c'est une condition universelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette parole, voyez, on l'entend résonner dans le cœur et dans la vie de tous les hommes. Cet homme fort, vaillant, mais cet homme fort et vaillant, il était lépreux. C'est-à-dire que nous pouvons avoir un tas de choses qui sont bonnes, mais il y a toujours un mais. Comme un ver toujours présent dans le fruit, c'est le péché. Et ça nous gâte l'existence d'une manière ou d'une autre. Pour l'un, ce sera, je ne sais pas moi, une addiction à la drogue ou à l'alcool ou à quelques mauvaises habitudes ou à quelques mauvais penchants, quelques tendances à, je ne sais pas moi, à se mettre en colère, à avoir des pensées, des désirs impurs, et ça gâche sa vie. Pour d'autres, c'est encore plus subtil, je dirais, mais c'est là, tapis au fond du cœur, ça se manifeste toujours et ça revient. Et même si quelqu'un dit « je voudrais m'en débarrasser, je ne voudrais plus vivre comme ça, je ne voudrais plus pratiquer ce qui me rend esclave », c'est quand même là. Hein, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alors cet homme, il prend la chose à cœur. On l'a entendu, on l'a lu, cette petite fille qui est sous son toit, il va lui parler. « Ah, si mon Seigneur pouvait se rendre là vers ce prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alors ça va faire son chemin. C'est bien quand on prend à cœur. Et Naaman va même prendre contact avec le roi. Il va organiser un tas de choses. Il envoie une lettre, le roi de Syrie, vers le roi d'Israël. Ça ne marche pas, parce que les hommes, même les plus éminents devant nos problèmes les plus intimes, eh bien, ils sont impuissants. Et finalement, Naaman va se rendre en Israël. Pourquoi ? Mais parce que Élisée, le prophète, va lui-même entendre parler de sa condition. Alors, comment est-ce qu'il a entendu parler, Élisée ? On ne sait pas. Mais ça nous fait du bien, de prendre conscience que Dieu, quand il veut nous bénir, eh bien, il est capable d'utiliser toutes sortes de moyens pour non seulement nous bénir, mais encore pour nous conduire vers la bénédiction. Je ne sais pas du tout comment Élisée a appris ce qui était arrivé à Naaman. Est-ce que c'est le roi d'Israël qui en a parlé à des serviteurs, qui en ont parlé à d'autres personnes, qui en ont parlé à Élisée ? Mais il l'a su. Et il va lui-même appeler Naaman. Il va dire, mais voilà, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et Naaman arrive escorté par toute une troupe, par des serviteurs, des chevaux, un char et de grandes richesses. Et là, il va rencontrer le prophète Élisée. Et pour nous, nous devons savoir que si nous ne sommes pas appelés à rencontrer un prophète, il y a dans la personne de celui que Dieu nous a envoyé bien plus qu'un prophète. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce salut dont la guérison de Naaman n'est qu'une image que Dieu nous envoie par Jésus-Christ. Il est venu pour nous bénir et détourner chacun de nous de nos iniquités. Vous voyez, c'est la guérison du péché, la guérison de la lèpre que Jésus est venu apporter pour ceux qui se tournent vers lui. Et Élisée va envoyer un messager vers Naaman. Et là, c'est tout à fait frappant de voir que Élisée ne sortira pas lui-même. Il envoie quelqu'un, il envoie un serviteur. Il me semble que Élisée a là l'intuition, l'intelligence de comprendre que Naaman, malgré tout ce qu'il a, et malgré même son besoin, il y a quand même un besoin en lui, c'est d'être d'être délivré, avant même d'être délivré de sa lèpre, d'être délivré de son penchant orgueilleux. Vous voyez, c'est le cœur de l'homme, il a tellement tendance à s'élever, le cœur de l'homme est tellement orgueilleux, même quand il s'approche de Dieu. Et voilà, Élisée lui envoie un serviteur, de telle sorte que déjà, Élisée, ça va l'irriter. Il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'imaginais que le prophète viendrait lui-même en personne. Enfin, je suis Naaman, je suis le ministre de la guerre de Syrie. Mais non, c'est un simple serviteur. J'imaginais qu'il sortirait, j'imaginais qu'il passerait la main là, sur la place où la lèpre réside et qu'il me guérirait ainsi. C'est pas comme cela que Élisée va pratiquer, tout simplement parce que Dieu ne travaille pas, n'agit pas comme nous le pensons. Il est écrit, il y a ce beau verset de la Bible, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et parfois, Dieu agit de telle ou telle manière que nous ne comprenions pas. Parfois, ça nous interpelle, ça nous choque, parfois, ça nous humilie, même capable parfois de permettre une difficulté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas lever le poing, il ne faut pas se cabrer, il faut accepter. Parce que si Dieu le fait, c'est toujours pour nous faire du bien, c'est toujours pour nous bénir. Et là, le messager de Élisée va simplement apporter cette parole à Élisée, va, trempe-toi, baigne-toi 7 fois dans le Jourdain. C'était ce fleuve bien connu qui coule en Israël, et tu seras pur. Et là, il est tout à fait frappant encore de remarquer la réaction de Naaman. Il s'en va, il tourne les talons, il nous a dit, il s'en alla, il était irrité, il se disait, mais enfin, c'est pas possible. Ce que me demande le prophète, vraiment, non, ça n'a pas de sens. Alors, certains soulignent, sans doute à juste titre, que le Jourdain est connu pour ses eaux boueuses. Et là, tout de suite, il y a ce raisonnement dans la pensée de Naaman qui compare ce fleuve à l'aspect sale au fleuve qu'il connaît dans son pays de Syrie. Les fleuves de Syrie, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que ce fleuve boueux du Jourdain? Et là, il s'en va. Vous vous rendez compte? S'il était parti, il était à 2 doigts de la bénédiction et il serait parti en manquant la bénédiction de Dieu. Vous savez que c'est une possibilité, hélas, d'être tout proche et de manquer la bénédiction de Dieu. C'est le Seigneur qui dira un jour à un homme, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est bien, mais si tu n'es pas loin, il faut rentrer. Il ne faut pas te tenir simplement tout proche et rester dehors. Il faut entrer. Et là, on remarque une dernière chose, c'est qu'à nouveau, ce sont des serviteurs. Vous avez remarqué à quel point Dieu, à 3 reprises, nous montre là que l'orgueil du cœur de l'homme doit être absolument abaissé. Non pas en étant écrasé, vous voyez, mais Dieu, dans son amour et sa bonté, s'ingénie parfois à nous dépouiller de cet orgueil qui nous pourrit la vie. Il parle par une enfant qui était devenue le serviteur de Naaman. Ensuite, il parle par le serviteur d'Élisée. Ensuite, là, ce sont les serviteurs de Naaman lui-même qui vont prendre la parole et ils vont avoir une parole de bon sens. Naaman, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ça fait réfléchir Naaman, il se dit, ben oui, c'est vrai, si Dieu m'avait demandé quelque chose de difficile, je l'aurais fait. Il y a des gens comme ça, qui se persuadent que pour gagner la faveur de Dieu, il faut faire quelque chose de difficile. Il faut se livrer à des services religieux, s'infliger des souffrances méritoires, donner beaucoup d'argent pour acheter sa grâce, et il se prive ainsi de la bénédiction. Mais ce que Dieu révèle, là, par la parole qu'adresse Élisée au prophète Naaman, eh bien, c'est la gratuité du salut. C'est la grâce. Bien sûr, le péché, c'est coupable. Bien sûr, on a besoin du pardon de Dieu. Bien sûr, c'est quelque chose qui est important. Bien sûr, c'est grave, le péché. Ça souille le cœur et ça attire sur nous la juste condamnation de Dieu. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ, elle est gratuite. Elle est parfaite. Elle est efficace. Elle est immédiate pour celui qui reçoit ce don. Pourquoi ? Parce que Christ, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a offert un sacrifice parfait auquel il n'y a rien à ajouter et qui a une pleine efficace pour apporter un parfait salut à quiconque le reçoit. Sur la croix, on entendra Jésus s'écrier « Tout est accompli, il n'y a plus rien à ajouter. Tout a été payé, la dette des pécheurs a été payée. » Et Dieu va approuver ce sceau, hein, va apposer son sceau sur cette réalité en le ressuscitant d'entre les morts. Et voilà ce qui se passe pour Naaman. Il finit par entendre raison, il retourne dans le Jourdain, il se plonge une fois, deux fois, trois fois, sept fois. Et la Bible nous dit simplement, quand il est sorti de l'eau la septième fois, il s'est regardé, il n'y avait plus de traces de lèpre, sa peau était redevenue pure comme celle d'un enfant. Eh bien, je vous assure que pour l'âme, non pas qui se plonge dans les eaux du Jourdain, hein, c'est une image ça, mais pour l'âme qui se confie dans le sacrifice de Christ, pour l'âme qui obéit au commandement de Dieu, son commandement c'est la vie éternelle, son commandement c'est de croire dans ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Notre péché disparaît. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus, son Fils, n'est-ce pas, nous purifie de tout péché. Alors voilà, hein, tout simplement, le parcours de Naaman, cette guérison, on comprend qu'elle a une signification spirituelle, qu'elle a un prolongement moral, qu'elle nous concerne finalement, nous sommes semblables à Naaman, nous l'avons bien compris, et que l'enseignement de l'Écriture, là, ça concerne la grâce de Dieu. Il faut venir, il faut l'expérimenter. Le commandement qu'il nous a donné, c'est la vie éternelle, et c'est le témoignage qu'il rend à son fils. Se trouvera-t-il quelqu'un ce soir qui a encore conscience d'être sous le coup de son péché, d'être encore souillé par le péché, qui désire en recevoir la purification, le pardon, recevoir le ciel qui s'ouvre, la délivrance? Bien ce soir, Dieu vous la donne. Je propose qu'on se recueille quelques instants et ensemble nous allons tourner vers lui dans la foi. Et